dans les pas des géantes. Elles ont marqué l'histoire des sciences, parfois sans qu'on le sache, souvent sans que l'on s'en souvienne. Dans les pas des géantes dresse chaque quatrième mardi du mois sur Radio B le portrait de ces femmes de science remarquables et pourtant méconnues. Laissez-vous inspirer avec Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. La primatologie est une discipline scientifique qui a été profondément marquée par le travail de trois femmes, Jane Goodall, Diane Fossé et Birute Galdikas, toutes les trois pionnières de l'étude des grands singes dans leur habitat naturel. Surnommées les trimates, ces trois femmes sans expérience ni formation universitaire, mais dotées d'une grande sensibilité et surtout de beaucoup de patience, vont profiter du manque d'intérêt de leurs collègues masculins pour l'étude de terrain, pour s'immerger au contact direct des grands singes et ainsi révolutionner toute la méthodologie scientifique de la primatologie. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Catherine Boitel, bénévole à Altec. Bonjour Catherine.
Bonjour Camille.
Alors Jane Goodall, Birute Galdikas et Diane Fossé sont surnommées les anges de Liquet en référence à leur mentor commun, l'anthropologue et primatologue Louis Liquet. C'est véritablement lui qui va les lancer sur le terrain.
Oui, effectivement. Louis Liquet, au milieu du XXe siècle, est l'un des primatologues les plus éminents au monde. Il cherche en particulier à augmenter ses connaissances sur les différences de comportement au sein des hominidés.
Alors les hominidés, hein, on explique, ce sont ce qu'on appelle communément les grands singes, et c'est ce qui regroupe les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les bonobos et bien sûr les êtres humains.
Oui, mais Liquet est également un grand anthropologue qui ne trouve pas de candidats convaincants parmi ses pairs, jugeant que la plupart d'entre eux sont pétris d'idées reçues à l'égard des grands singes, car à l'époque, tous les plus éminents professeurs soutiennent que seuls les humains sont aptes à penser et à ressentir. Liquet est convaincu que pour pouvoir étudier le comportement de ces grands singes, il faut les observer dans leur habitat naturel, et ce, sur de longues périodes, pour d'abord être accepté par ces groupes de primates et ensuite pouvoir observer leur comportement.
Et rien que ça, c'est déjà une petite révolution dans la primatologie de l'époque qui ne conçoit pas l'observation sur le long terme comme faisant partie intégrante de la méthodologie scientifique.
Non, en effet. Depuis les années 1850, il y avait des observations sur le terrain. Mais elles étaient souvent faites le fait d'explorateurs-chasseurs qui étaient là, avant tout, à la recherche de sensations fortes et de trophées. Leurs récits d'aventure nourrissent quand même une partie de la connaissance scientifique à l'égard des grands singes. Mais cela restait des observations biaisées, partielles, qui ne reflétaient pas le comportement naturel des primates. Après la Deuxième Guerre mondiale, la primatologie évolue petit à petit et certains scientifiques, comme Louis Liquet, souhaitent encourager l'observation à long terme sur le terrain pour pouvoir saisir le comportement naturel de ces grands singes. L'enjeu des scientifiques n'est plus de comparer leur intelligence à celle de l'homme, mais de comprendre leur comportement dans leur environnement.
Alors la première de ces trimates que Louis Liquet va recruter, c'est Jane Goodall en 1957. Pourquoi l'avoir choisie pour cette recherche sur le terrain ?
C'est vrai que le choix peut paraître étonnant car Jane Goodall est une jeune Anglaise à l'époque de 23 ans, sans aucune formation universitaire, quand elle va rencontrer Louis Liquet. Mais elle se distingue par son intérêt passionné pour les primates, mais aussi son anticonformité par rapport aux primatologues de l'époque. Elle considérait les chimpanzés comme des individus, avec des personnalités marquées, plutôt que comme de simples sujets d'étude. Et c'est précisément ce que recherche Liquet, une personne capable d'aller sur le terrain et dont l'esprit serait vierge de toute théorie scientifique.
Alors, Jane Goodall, elle part pour la Tanzanie en 1960. Elle va y passer plusieurs mois en immersion dans la jungle hein, pour pouvoir observer le comportement des chimpanzés. Et elle va faire, dès son arrivée sur place, ou quelques mois après seulement, des découvertes qui vont complètement révolutionner la perception que nous avons des autres grands primates.
Et oui, l'une de ses plus grandes découvertes a eu lieu seulement quelques mois après son arrivée en Tanzanie, où elle a observé pour la première fois des chimpanzés utiliser des outils. en l'occurrence des petits brins de paille qu'ils enfonçaient dans les termitières pour récupérer les insectes dont ils se nourrissaient. La fabrication, l'utilisation d'outils étaient jusqu'alors des attributs que l'on pensait réservés à l'intelligence humaine. Donc cette découverte a complètement remis en cause la perception de l'intelligence animale.
Oui, et c'est également grâce à Jane Goodall que l'on connaît mieux la complexité des interactions entre les primates, notamment les chimpanzés, en particulier les relations par exemple au sein des groupes familiaux.
Tout à fait. L'observation sur le long terme, encore une fois, a permis de capter toute cette complexité de relations qui peut exister au sein des groupes sociaux de primates, comme l'adoption des chimpanzés orphelins, ou encore les mécanismes de conflit, parfois très violents, entre deux groupes établis. Et c'est aussi grâce à Jane Goodall que l'on découvre que les chimpanzés peuvent chasser et manger de la viande, alors que l'on pensait qu'ils étaient strictement végétariens.
Alors Catherine, l'approche de Jane Goodall, elle était quand même très particulière par rapport aux pratiques de recherche de l'époque. En plus de ça, elle n'avait pas de formation universitaire initiale. J'imagine qu'elle a dû quand même essuyer quelques critiques.
Ah là Camille, vous touchez un petit point sensible. Hein. Même si elle a permis de grandes découvertes dans le milieu de la primatologie, on lui a beaucoup reproché son manque d'académisme et de distance avec ses sujets d'études. Notamment parce qu'elle donnait des noms aux chimpanzés plutôt que des numéros, ce qui allait complètement à l'encontre des conventions scientifiques de l'époque. Donc oui, elle a suscité de nombreuses critiques, surtout de la part des universitaires purs et durs. Mais c'est aussi pour cela que Louis Leakey l'avait choisi, plutôt qu'un chercheur plus conventionnel. On peut dire qu'elle a bouleversé l'éthologie en apportant un regard neuf et nouveau sur la recherche comportementale.
Et grâce à ça, Jane Goodall est devenue une véritable icône de la primatologie moderne et même de la science en général. Elle jouit d'ailleurs aujourd'hui d'une immense popularité, notamment de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne. Autre figure importante des anges de Leakey, il s'agit cette fois-ci de Diane Fossey. Alors Diane Fossey, également propulsée par l'anthropologue, mais qui va malheureusement avoir un destin beaucoup plus tragique que Jane Goodall.
Oui, Diane Fossey est probablement la plus audacieuse des trois anges de Leakey, mais aussi la plus controversée d'abord. Elle est ergothérapeute quand elle rencontre Leakey, comme l'avait fait Jane Goodall auparavant. Elle va alors s'engager dans la recherche scientifique en partant au Congo en 1966, pour étudier les gorilles des montagnes. Elle passera ensuite un doctorat de zoologie en 1974.
Alors Diane Fossey, on disait, elle a un destin vraiment très particulier qui a notamment été marqué par de nombreux événements traumatisants qui vont à la fois forger son engagement scientifique, mais aussi son engagement politique et militant.
Et oui, effectivement, un an et demi après être arrivée au Congo, elle va malgré elle se retrouver au milieu d'une guerre civile. Elle va être kidnappée, puis torturée pendant plusieurs semaines, puis finalement relâchée. Mais malgré l'insistance de Louis Leakey qui lui conseille de faire demi-tour, d'abandonner son projet de recherche, elle va traverser la frontière pour poursuivre ses études sur les gorilles au Rwanda.
Ouais, et malgré ces événements traumatisants, Diane Fossey donc va continuer de s'investir pleinement dans ses missions de recherche et faire, comme Jane Goodall, des découvertes qui vont totalement révolutionner la perception et même l'imaginaire, on peut dire, autour des gorilles.
Oui, alors sur l'imaginaire autour des gorilles, l'imaginaire collectif des années 70, il est encore bien marqué par l'image du gorille brutal, violent, sanguinaire, qui a été diffusée par les œuvres comme King Kong notamment. Et là encore, c'est le travail d'observation sur le terrain qui va complètement changer notre perception de ces grands primates. Diane Fossey va d'ailleurs gagner en visibilité auprès du public avec son livre « Gorilles dans la brume » qui dépeint les gorilles comme étant dignes, très sociables, doux, avec des personnalités individuelles et des relations familiales fortes. Ce sont ces mots qu'elle utilise dans ce livre.
Et Gorille dans la brume, ce livre sera d'ailleurs adapté au cinéma avec Sigourney Weaver et un film qui sera d'ailleurs nominé aux Oscars.
Oui. C'est vrai qu'à travers ce livre et ce film, ça reste une référence mondiale sur les gorilles. Le grand public va découvrir le travail de Diane Fossey, sa perception des gorilles va évoluer. On découvre ainsi pour la première fois les morses de ces mammifères primates. Et grâce à elle, pour la première fois, on prend conscience aussi de leur fragilité.
Parce que les grands singes sont de manière générale extrêmement menacés, les gorilles en particulier, notamment à cause du braconnage.
Et oui, en travaillant constamment en milieu naturel, Diane Fossey va régulièrement être confrontée aux braconniers présents. Et c'est en réponse à ces massacres pour défendre les populations locales de gorilles qu'elle va développer un côté militant, voire plus que militant, offensif. Elle organisera de véritables expéditions pour saboter les pièges, mais aussi capturer les braconniers, les remettre aux autorités.
Et en plus de s'attirer les foudres des braconniers locaux, à qui elle faisait clairement une guerre ouverte, elle aura aussi des relations très houleuses avec, par exemple, les touristes de passage qui souhaitent observer les gorilles.
Oui, et qui risquent de déranger, mais aussi les populations locales dont elle se méfie. Elle refuse de les associer à ses travaux de recherche, car elle craint, à juste titre, qu'impliquer les locaux fasse des gorilles des proies beaucoup plus faciles pour les braconniers. Malheureusement, après tout ce militantisme actif, cet enthousiasme, on va la retrouver assassinée quelques années plus tard, en 85. De nombreuses pistes ont été suivies, mais à l'heure actuelle, son assassin n'est toujours pas reconnu, même si de forts soupçons ont déjà été dirigés vers les braconniers locaux.
Vous écoutez Radio B. Alors, dernière icône de ce trio de primatologues, c'est Birute Galdikas, qui est devenue l'une des plus grandes spécialistes, des orangs-outans, ces grands singes d'Asie, qui sont parmi les plus difficiles à observer d'ailleurs, car à l'inverse des chimpanzés et des gorilles, comme on a vu juste avant, les orangs-outans sont des animaux solitaires.
Vous venez de le préciser, Camille, leur vie solitaire les rend très difficiles à localiser et à observer, en particulier dans la jungle. Mais ça ne va pas décourager Birute Galdikas, qui, bien déterminée, va passer ses 12 premières années de recherche à essayer de gagner la confiance des orangs-outans de l'île de Bornéo.
Ouais, imaginez, alors que Jane Goodall ou Diane Fossey n'ont, entre guillemets, eu besoin que de quelques mois pour se faire adapter par les autres primates, Birute Galdikas va devoir attendre 12 ans avant de se faire accepter par les orangs-outans et ainsi pouvoir les observer. Alors Birute Galdikas, elle est parmi le trio des anges de Liquet, probablement la moins connue et la moins populaire, on va dire, auprès du grand public. Comment on l'explique, ce manque de popularité? J'allais dire impopularité, mais ce n'est pas le cas.
Oui, écoutez, elle n'a pas choisi le sujet de recherche le plus facile. Les orangs-outans sont, comme on le disait, des primates beaucoup plus difficiles à repérer et à observer, très calmes. En plus de cela, les populations d'orangs-outans fluctuent très peu, parce que les femelles ne sont matures sexuellement qu'à partir de 15 ans. Donc la vitesse de renouvellement des populations est assez lente. Au final, Birute Galdikas a moins publié que ses consœurs, Jane Goodall, Diane Fossey, et c'est pour cela qu'elle a bénéficié de moins de popularité auprès du grand public, mais aussi auprès du reste de la communauté scientifique.
C'est le fameux publish or perish, yes. Publier ou périr, qui est bien connu dans la communauté scientifique et qui pose problème d'ailleurs. En gros, la réputation d'un chercheur, c'est encore le cas aujourd'hui, est basée en partie sur la fréquence à laquelle il est publié dans une revue scientifique comme Nature, pour donner un exemple. Et un scientifique qui ne publie pas régulièrement est un scientifique quasi invisible, donc qui sera aussi moins pris au sérieux par ses pairs.
Oui, mais c'était aussi un parti pris pour cette primatologue, qui a toujours soutenu qu'il ne servait à rien d'écrire des articles sans signification, mais qu'il valait mieux donner la priorité à la science et aux connaissances authentiques, basées sur un travail de terrain.
Oui, parce que malgré cette faible visibilité dans le milieu universitaire, Birute Galdikas, elle a elle aussi permis d'en savoir beaucoup plus sur les orangs-outans.
Ah ben tout à fait. C'est notamment grâce à ses travaux d'observation qu'on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur l'implication des mères dans l'élevage et l'éducation des petits, sur leur régime alimentaire, leurs habitudes d'accouplement, leur interaction sociale. Elle est encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes spécialistes du comportement de ces grands primates. Et puis, elle a aussi largement contribué à l'enrichissement de la connaissance sur la forêt tropicale humide et sa biodiversité. Et puis, autre chose qui n'est pas une moindre affaire, elle a permis de valoriser et de reconnaître les populations indonésiennes, notamment les femmes qu'elle a utilisées, qu'elle a mises en place auprès des orangs-outans pour s'occuper, faire une sorte de nounou, de nourrice, de nurse.
pour pallier notamment aux orangs-outans, aux petits orphelins hein, qui se retrouvent orphelins après des actes de braconnage ou de destruction de leur environnement. Mmh. Alors ce qui est intéressant, Catherine, à travers ces trois destins de femmes, c'est de voir les similitudes, malgré qu'elles elles aient exploré des contrées totalement différentes, étudié des populations différentes, notamment le lien fort qu'il y a avec les médias, comme le magazine National Geographic, qui a fortement participé à la popularité de ce trio.
Oui, oui, il y a même eu un imaginaire qui s'est construit autour de ces anges de Liquet. Les trois jeunes femmes ont fait chacune à leur tour la une du magazine National Geographic. Alors, premièrement, parce que c'était la National Geographic Society qui leur a financé leur expédition en grande partie. Aussi parce que les médias aimaient bien à jouer l'image de la belle et la bête, des jeunes femmes partant à l'aventure dans des milieux hostiles pour révéler la vraie nature, leur vraie nature et la vraie nature humaine au contact des grands singes. Il y a eu de superbes unes enrichissant. Il y a eu de superbes unes qui mettaient en évidence cela. Et puis les unes du National Geographic ont témoigné aussi d'un contact apaisé entre les êtres humains et les grands singes, ce qui est encore une fois une petite révolution pour l'époque.
Et c'est d'ailleurs peut-être l'un des plus grands enseignements finalement apportés grâce aux observations de ces trois femmes, ces trois primatologues, que la singularité des êtres humains peut être remise en cause, que nous avons un lien fort avec ces cousins grands singes, puisque l'on retrouve une part d'humanité chez ces autres primates.
Oui, oui, c'est ce que l'on disait tout à l'heure avec Jane Goodall, qui a repéré l'utilisation d'outils par des chimpanzés. C'était tout à fait révolutionnaire, alors qu'on croyait que c'était un attribut uniquement réservé à l'intelligence humaine.
Pour terminer, Catherine, on peut rappeler aussi que ces trois scientifiques se sont toutes engagées dans des projets de conservation en fondant notamment leur propre programme de préservation des populations locales de grands singes.
Oui, et c'est bien nécessaire parce que toutes les espèces de grands singes, à l'exception de l'être humain bien sûr, sont menacées. La plupart des familles de gorilles et d'orang-outans sont en danger critique d'extinction. Les chimpanzés et les bonobos, eux, le sont moins à un stade moins avancé. Les orang-outans sont probablement les plus menacés. Certaines populations risquent même de disparaître d'ici quelques décennies. Comme les orang-outans tapanuli qui vivent au nord de Sumatra et dont il ne resterait plus que 800 individus. Quelle que soit l'espèce, on peut dire de toute façon la fragilité des hominidés est bien réelle de nos jours.
En tout cas, ce qu'on retiendra de ces trois portraits de femmes, c'est l'impact énorme qu'elles ont eu sur la primatologie, grâce à leur implication sur le terrain, leur grande patience. On rappelle Birut Egaldikas, 12 ans à attendre dans la jungle pour se faire accepter par ces orangs-outans. Jamais auparavant, les grands singes n'avaient été observés de cette manière dans leur habitat naturel et ça a véritablement révolutionné cette discipline scientifique. Et c'est aussi grâce à leur regard de femme qu'elles ont permis de remettre en cause cette singularité de l'être humain en mettant en évidence la part d'humanité des primates. Merci Catherine d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci Camille. À bientôt.
À bientôt Catherine. Et quant à nous, on se retrouve le mardi 25 mai pour une prochaine chronique dans les pas des géantes. On profitera de l'actualité scientifique pour revenir sur les femmes qui ont marqué l'exploration spatiale. Retrouvez d'autres portraits de femmes scientifiques inspirantes et toutes les autres chroniques d'Altech sur le site radio-b.fr. À bientôt !